Atelier. Une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels.
Bonsoir à tous et à toutes, ici Benjamin J. Allard pour cette 44e émission d'Atelier, votre magazine radiophonique en art actuel, en direct de CIBL Jojage, un territoire Gayen-Gayaga non cédé aussi appelé Montréal. En première partie d'émission aujourd'hui, nous allons avoir une entrevue avec la chorégraphe et interprète Dana Michel et Elisabeth Recure nous présente sa première chronique sur l'art public en compagnie de Pascal Baudet. En deuxième partie d'émission, Pascal Tremblay se joue Cela joue à propos d'une chronique sur une activité de performance et pour le segment création, Ileana Hernandez et ses acolytes présentera Toi, lance des souhaits. C'est une performance participative qui se déroulera tout au long de l'émission. Vous allez pouvoir en avoir des clins d'œil grâce à nos Instagram stories et nos autres réseaux sociaux. Le commissariat sonore a été réalisé aujourd'hui par Véronique Marangère. C'est notre responsable des communications à Atelier. C'est également une artiste sonore, principalement active en musique expérimentale et en performance. Sa musique est souvent décrite comme étant minimaliste et très sombre, mais elle se base surtout sur la prise de risque, le circuit bending et la théâtralité. Véronique est diplômée de l'Université de Montréal en musique numérique et travaille présentement sur une interface musicale et quatre projets électroacoustiques, Vero und Estelle, Uran et Voice. Son commissariat sonore s'inspire des premières œuvres électroacoustiques qu'elle a écoutées lors de son arrivée à Montréal. Nous commencerons d'ailleurs avec une pièce du compositeur français François Boubel, qui est fortement associé avec l'invention de la musique acousmatique. La substance de sa pièce « Toupie dans le ciel » a été élaborée à partir d'un son réel de toupie et d'un pattern mélodico-rythmique simple et de flux électronique. Nous poursuivrons avec ma conversation avec Dana Michel. Michel, de te prêter au jeu de l'entrevue.
Pas de problème.
Je voulais commencer peut-être à parler de la manière avec laquelle tu as commencé en danse.
Je pense que c'est très, très humain, mais c'était toujours une quête de me donner plus d'espace dans le monde, de me donner plus de liberté, de me sentir plus vivante. La danse, comme il existe pour moi maintenant, ça a commencé au début vingtaine. Donc, c'est quand j'ai découvert la musique électronique et les raves. C'est là où ça a vraiment déclenché quelque chose en moi, où j'étais comme « Ok, qu'est-ce que je faisais avant? »
Ouais. Mais ça répondait à un besoin ou ça l'a mis des choses en relation, ce rapport-là avec le rave?
Ça répondait à un besoin que je savais et savais pas exister. Je suis toujours une personne un peu mélancolique, pas vraiment détachée, mais c'est que je faisais pas trop la connexion entre ce que j'étais en train de vivre et ce que je jouais dans le monde extérieur. Et quand j'ai découvert cette musique, quand j'ai commencé à aller dans des raves, aller à des after hours et à communiquer, à danser, entourer des gens qui étaient des étrangers, c'est là où j'ai commencé à comme peut-être comprendre mieux ce que je faisais comme en vie. Mm-hmm. I mean, why I'm alive. Peut-être pas pourquoi, mais au moins, il y avait une connexion qui a été faite. Après, c'était comme la poursuite d'avoir cette sensation toujours. Et c'est là que j'ai, par accident, découvert ce département de danse à Concordia.
Oui, puis je trouve ça intéressant parce que la manière avec laquelle tu parles souvent de tes pièces, tu lis ça également avec des expériences de répression. Dans l'entrevue que tu donnes sur la page du FTA, par exemple, tu dis... que c'est une pièce à propos de la répression de ta sexualité. Mm-hmm. Donc, cette idée-là que la danse donne plus d'espace, que répond à des questions, pourquoi on est en vie, des choses comme ça, est-ce que c'est un lien, justement, de... ça fait partie d'une introspection?
Toujours. Je parle souvent de l'enfance, mais... oui, ça, exactement, ça parle de là. Et je pense que j'ai comme... je pense que j'ai eu une enfance assez libre où j'avais beaucoup, énormément de liberté, énormément de temps à, de voyager dans mes propres pensées, dans mes propres mondes que je créais. Et puis, je pense que c'est très normal. plus on vieillit, plus cette connexion avec cette vie intérieure qui est très riche, avec cet état de, d'être en découvert en permanence, ça devient de plus en plus petit, cet espace. Et puis, peut-être si on veut, là j'utilise mes mains qu'on ne voit pas, mais voilà, j'avais tout un monde de liberté quand j'étais enfant, et puis ça réduisait, et puis à un moment donné, c'était comme... Non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas vrai, je savais pas que ça réduisait. Mais quand j'ai découvert la danse, quand j'ai découvert les raves, quand j'ai découvert cette musique, quand j'ai découvert l'art, parce que j'avais absolument pas vraiment de contact avec l'art contemporain, même ça, c'est un peu réductif.
C'est difficile, hein, dans la parole. Il y a souvent des lieux-dits qui vont s'immiscer. C'est un peu ça qui est intéressant avec l'art, hein, puis avec le processus chorégraphique.
Ouais.
Donc, on rentre dans un processus et on dit « Ah, mais j'ai quelque chose. » Non, en fait, c'est pas vraiment ça que je veux dire. C'est trouver la vraie parole. Moi, j'aimerais qu'on parle peut-être justement de ce processus chorégraphique-là. Mm-hmm. Est-ce que tu parles souvent du workshop que tu as eu avec...
Ivo Dimchev.
Ivo Dimchev, exactement. Uh-huh. Qui a enclenché, d'une certaine manière, un processus chorégraphique.
Qu'est-ce que j'ai découvert peut-être dans cet workshop avec Ivo? C'est que il y avait de la place pour être plus moi dans mes créations, en fait. C'est que ça pourrait juste être ça. C'était que, voilà, la chorégraphie ou la création d'une performance, c'était pas juste, OK, on fait de la recherche et puis on rentre en studio et puis on crée des mouvements, OK, super, puis on invite des gens pour le... Qu'on pourrait devenir très tranquille avec nous-mêmes, à connecter à des choses extrêmement subtiles, et de les laisser surgir et de les laisser de la place pour ça, pour des choses très petites mais très importantes. Parce que tous ces... How do we see seeds?
Les graines.
Oui, voilà. Tous ces graines sont importantes. Et en fait, moi, je sais que quand je connecte avec un morceau de l'art, un morceau de musique, c'est que je peux sentir ces graines, que je peux les voir, que je peux me reconnaître dans ces petites graines. C'est là où c'est comme ça devient comme... comme... où c'est riche pour moi.
Puis je trouve ça intéressant qu'on parle de musique, parce que ton travail est connecté avec plein d'autres formes d'art. Hein? Mm-hmm. C'est un peu ça, la chorégraphie. Il y a la mise en scène, il y a la musique, mais il y a également ces objets-là entre les disciplines. Puis quand je lisais sur ton travail, il y avait cette notion-là d'abstraction. Hein? Que, par exemple, la musique, on peut connecter à la musique de différentes manières, il y a différentes portes d'entrée, une certaine forme d'abstraction. Même chose pour un objet. Hein? Un objet, c'est silencieux. On peut le regarder de différentes manières. On peut le mettre dans sa maison de différentes manières. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec peut-être justement le langage des arts visuels ou avec cette notion-là?
C'est sûr. Il y a certaines choses qui sont évidentes quand je parle avec des gens qui viennent plutôt de l'amont de l'art visuel. Il y a certaines évidences qu'il ne faut même pas qu'on discute. Tandis que, peut-être de moins en moins maintenant, mais certainement au début, ou quand j'ai commencé peut-être à changer ma manière de créer, d'une certaine manière, c'était toujours la question de « mais pourquoi tous ces objets? Pourquoi cette manière d'être? » C'était des questions qui n'existaient pas dans des autres domaines. Et pour moi, c'est même pas que c'est important, c'est la manière dont je crée, il ne me met pas de limites. C'est que ce qui m'intéresse. Donc ça va communiquer avec l'art visuel, ça va communiquer avec l'écriture, ça va communiquer avec... des épiceries. Je pars souvent des épiceries.
C'est un endroit tellement perturbant, les épiceries.
Perturbant, riche, bizarre. A very interesting place.
Ah, bon, hey, on doit parler un peu de Cutlass Spring,
yes,
qui est la pièce qui va être présentée au FTA du 31 mai au 3 juin au Prospero. Est-ce que ça a rapport à des épiceries?
Toujours.
Non, toujours.
I mean, qu'est-ce qui est toujours présent dans mon travail que je vois jusqu'à maintenant, c'est la domesticité. Et c'est justement le fait que tout est dans le même panier. Ma vie à la maison, la vie créative, tout est dans le même panier. Il faut absolument que je vis de cette manière-là, parce que si, de mettre des choses dans les catégories, ça fait pas, juste pas de sens. Donc,
Ouais, cette idée de domesticité, puis en fait, c'est une chose sur le sexe, hein, c'est une chose sur la sexualité.
D'abord, je pense que juste dire sexe, c'est la chose la plus simple quand je parle de cette pièce, parce que après, je suis partie sur des millions de pistes. J'ai toujours eu un désir de faire mes études en sexologie. J'ai toujours eu une obsession à lire sur l'éducation sexuelle ou l'anatomie sexuelle. Mais en fait, je dis éducation sexuelle parce que je me suis donné une opportunité juste d'aller regarder à tout ce qui touchait à la sexe. Et en général, la manière dont je travaille, quand je travaille sur un sujet, j'ai un mot et après, je le laisse saigner partout, cet sujet. Oh my God, j'ai une image juste pas possible dans ma tête. J'ai comme une image d'une steak qui saigne partout. Mais c'est l'idée que quelque chose commence quelque part, mais après, que je le laisse décliner comme il veut. Et puis, ce que je présente en théâtre, ça fait partie de la conversation. En fait, je pense que c'est pas le but. Ça fait juste partie d'une conversation, d'un centre d'intérêt. C'est ma manière de comme commencer à partager cet intérêt d'une manière publique.
Donc, est-ce que c'est un processus de recherche ou un processus de signification? Parce qu'il y a beaucoup de signification ouverte, hein, un stream of consciousness dans ton travail.
Oui.
Donc, de continuer à travailler de cette manière-là pour Cutlass Spring?
Ouais, c'est la manière dont je travaille, dont je vis, dont j'éduque mon fils, j'éduque moi-même. C'est la manière dont mon cerveau, ça marche. C'est ça qui me garde stimulée et engagée, en fait. C'est the stream of consciousness.
Mm-hmm. Le fleuve de conscience.
Ouais. Fleuve de conscience. Oh, beautiful.
Une traduction sur le champ. Ah, fantastique. Ben, Dana Michel, merci beaucoup d'être venue à Atelier.
Ça me fait plaisir.
Rebonjour sur les ondes d'Atelier, justement, mon nom est Benjamin J. Allard et je vous accompagne à la découverte des arts actuels jusqu'à 19h sur les ondes de CIBL. Vous venez d'entendre ma conversation avec la chorégraphe et interprète Dana Michel. Je vous rappelle que sa pièce solo « Cutlass Spring » sera présentée dans le cadre du FTA du 31 mai au 3 juin à partir de 21h au Théâtre Prospero. Nous continuerons en musique avec le vertige inconnu de Gilles Gobeil. Lorsqu'il décrit son travail de composition, il a déjà fait référence aux tailleurs de pierre du Moyen-Âge qui frappaient leur matière, la faisaient résonner, afin de juger si elle était apte à la construction. En effet, Gilles Gobeil explique que son travail de composition consiste à explorer et à évaluer le comportement des matériaux au voisinage de la rupture. Il privilégie les formes nettes, fortes et tranchées, les mouvements d'alternance et les jeux marqués de tension et de détente. Vous écoutez Atelier, l'émission qui explore l'art sur tous les terrains. Nous accueillons d'ailleurs en studio pour sa première chronique Elisabeth Recure. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Alors vous êtes notre nouvelle chroniqueuse pour un domaine qui vous tient à cœur, c'est l'art public, critique d'art et professeur. Comment cet intérêt pour l'art public est-il né?
Je le dois à ma mère. Je dois beaucoup de choses à ma mère. Toute petite, elle m'a fait voyager. C'est grâce à elle que j'ai découvert donc, mes premières statues, des œuvres, des monuments dans les parcs, les villes, souvent les églises, New York, Paris. Je dirais qu'ensuite, bien plus tard, c'est Lise Lamarche, que j'ai eue comme professeure à l'UDM, qui a nourri cet intérêt. Elle avait le don, non pas de décrire les œuvres, mais de les raconter.
Un don fantastique qu'on va réentendre durant toutes ces chroniques. Alors, on va parler... de quoi on va parler cet été?
On va parler donc d'art public. On va partir des bases pour se diriger vers certains aspects spécifiques, certaines questions qui sont relatives à cette pratique. Donc, à la base, les politiques d'intégration de l'art à l'architecture et puis ce qu'on désigne d'autre part par site spécifique ou in situ. Et puis ensuite, on va se poser quelques questions sur les liens que tissent les œuvres avec leur environnement d'installation, sur la correspondance du travail d'un artiste en atelier ou pour une galerie, pour un musée et sa réponse aux commandes publiques, sur la réception des œuvres par les usagers de l'espace, sur l'éphémérité, parfois, des œuvres publiques. Je vais aussi consacrer une chronique à une artiste qui nous a quittés l'année dernière, Louise Vigée, qui a tout un corpus d'œuvres installées dans la ville. Donc, voir s'il y a des liens qui peuvent se tisser entre les projets différents qu'elle a réalisés, qu'un même artiste réalise dans la ville.
Et d'une certaine manière, redécouvrir Montréal à travers ses œuvres. Et qu'est-ce qu'on entend par le terme « public » ?
L'art public est partout autour de nous. Donc, l'art public, c'est l'art de notre communauté. À l'intérieur, à l'extérieur des bâtiments. Il existe depuis très longtemps, pour ne pas dire depuis toujours. Il prend des formes classiques ou non. Autrefois, l'art public servait surtout à commémorer des hommes de pouvoir, les grands faits de l'histoire. Au cours du 19e siècle, on a vu l'introduction de valeurs un peu plus démocratiques, par exemple, qui représentent des ouvriers, des paysans au travail. Ici, dans cette chronique, c'est sûr qu'on va s'intéresser à un art public uniquement contemporain qui s'installe sur les places, dans les parcs, les stations de métro, les lieux culturels, les établissements d'enseignement, de santé, de sport. Enfin, on est souvent affairé, on est envahi de signes, la signalisation routière, les nombreuses publicités, les écrans d'information. Et puis, on suit ses habitudes. Au final, on n'est pas nécessairement attentif à ce qu'on appelle l'art public. Benjamin parlait de réception dans la distraction. La plus grande partie des personnes qui sont confrontées à l'art public sont des visiteurs involontaires, comme les a identifiés Dario Gamboni. L'art public, ça prend des formes très, très différentes. On peut nommer, par exemple, les mots projetés l'année dernière de Ginny Holzer sur un silo à grains, des installations de Michel Goulet dans les parcs, sur les places, photographies, par exemple, grand format sur le mur extérieur du Café Charrier, Pascal Grandmaison, bon. Ce qu'on essaie, en fait, d'établir par l'installation d'art public, c'est un réseau de connexions actives avec non seulement l'environnement architectural, urbain, mais humain, social et même naturel. On tente, bien entendu, de défendre puis de promouvoir les œuvres qui sont les plus représentatives actuellement à Montréal. C'est sûr qu'au cours de nos déambulations, les œuvres vont souvent fonctionner comme des repères, des traits d'union. Et parfois, ça va transformer un espace qui était vacant, abandonné, auquel on n'avait pas beaucoup prêté attention et qui va devenir un lieu symbolique. L'art urbain tend aussi à modifier notre rapport à l'espace et au temps dans les lieux publics. Au point de vue du contenu, les œuvres peuvent être porteuses de messages universels, peuvent être facilement intelligibles, mais aussi peuvent, au contraire, devenir des sources de polémiques. Au point de vue de la forme, on a des œuvres qui vont s'adapter à l'environnement, qui vont être en harmonie avec le lieu d'installation, mais qui peuvent aussi, à l'opposé, être en contraste avec le lieu. L'essentiel, c'est de favoriser des expériences. C'est pas, le but n'est pas de plaire à tout prix, c'est plutôt de nous interpeller, de nous questionner. C'est ce que fait l'art contemporain de toutes les façons. La ville se compose d'une diversité de citoyens. Si l'art public donc cherche à créer l'image d'une ville qui nous ressemble, qui soit notre portrait, à laquelle on peut s'identifier, c'est certain que c'est souhaitable d'avoir une diversité de propositions artistiques. L'ultime est aussi de préserver cet art public. Rosaline Krauss a écrit « Survivre ». Telle est la vraie fonction de tout nouvel art public, les œuvres qu'on installe. On espère aussi avoir les moyens de les conserver, puisqu'elles sont censées être pérennes. Elles sont censées servir de traces de notre relation au monde, de notre relation à la ville, notre relation à Montréal.
survivre le but de l'art public. C'est une belle pensée. Puis une des manières justement que cet art public-là peut survivre, c'est grâce à ces fameux 1%. C'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. On parle des 1% d'ailleurs avec Pascal Baudet. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Alors, Pascal Baudet, qui est critique et commissaire, qui va nous expliquer en quoi cette politique constitue la politique d'intégration des arts à l'architecture. Et puis, Elisabeth, je te laisse le soin de présenter ton invité.
Pascal a été chargé de projet pendant de nombreuses années pour le 1%. Elle a d'ailleurs été responsable du CHUM récemment. En ce moment, elle prépare deux commissariats d'exposition, donc un sur, avec René Derouin au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Et elle est aussi commissaire pour l'événement d'été d'art souterrain qui a lieu dans les fenêtres d'édifices inoccupés de la ville pendant tout l'été de juillet à septembre. Bonsoir Pascal, merci d'être avec nous. Donc, à quel moment cette politique a été mise en place au Québec?
Alors, c'est en 1961 que le Québec a adopté une mesure gouvernementale qui consistait à consacrer environ 1% du budget de construction d'un bâtiment à la réalisation d'œuvres d'art qui étaient spécifiquement conçues pour le lieu en question. Alors, à l'époque, c'est amusant parce que ça s'appelait la politique d'embellissement des édifices publics. Et elle suivait, 10 ans plus tard, une politique semblable qui a été adoptée en France. En 72, en fait, le Conseil des ministres a créé un comité consultatif de 7 personnes qui était chargé de veiller à l'application de la politique.
Donc, qui avait le pouvoir décisionnaire? Qui faisait le choix, la sélection des projets?
Le choix définitif des artistes et des œuvres incombait aux membres du comité et particulièrement aux architectes qui étaient responsables des projets. Les architectes avaient vraiment une influence déterminante sur le choix. La politique, à l'époque, était placée sous la responsabilité du ministère des Travaux publics et de l'approvisionnement, et elle s'appliquait aux constructions dont le coût excédait 250 000 $.
Uh-huh. Donc, 20 ans plus tard, la politique a été adoptée sous sa forme actuelle, en 81, et son nom complet est devenu la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics.
Ça fait plus moderne que le site de...
d'embellissement.
L'embellissement, oui.
Et à qui a-t-on alors confié son application, Pascal?
Alors, c'est devenu la responsabilité du ministère des Affaires culturelles, comme on l'appelait alors, mais qui est maintenant le ministère de la Culture. Et donc, on a remarqué que la notion d'embellissement a disparu pour laisser la place à celle d'intégration. Et en cela, on se distingue au Québec parce qu'en France, on parle de 1% artistique. Les anglophones parlent de public art ou de percent for art. Et donc, le décret de la politique a été révisé en 1996.
Depuis son adoption, est-ce qu'on a une idée du nombre d'œuvres d'art qui ont été commandées?
Oui, à ce jour, il y a plus de 3800 œuvres qui ont été réalisées dans le cadre de la politique. Et donc, elle s'applique au gouvernement, à ses ministères, à ses organismes, mais aussi à une personne qui reçoit une subvention, enfin, une personne morale, et donc pour un projet de construction ou d'agrandissement, et le coût doit être supérieur à 150 000 $. À l'heure actuelle, tous les ministères constructeurs sont assujettis au décret. Il reste quand même certaines exclusions, les routes, les ponts, les viaducs, les barrages et les stationnements.
J'aimerais bien voir de l'art public sur le viaduc, les ponts et les barrages quand même. Mais ça amène à la question, en fait, quel genre de forme on peut voir, quelle forme peut prendre l'art public?
En fait, ce sont les mêmes formes qui existent en art visuel en général. Il y a surtout des sculptures, mais il y a aussi des peintures, des estampes, des photographies, de l'art numérique. Il y a aussi eu une œuvre performative dans cet édifice qui abrite CIBL. Mm-hmm. Il y a une œuvre sonore au CHUM, une œuvre processus. Elle témoigne de la diversité d'expression des artistes et du patrimoine artistique au Québec.
Mm-hmm. On a d'ailleurs parlé de l'œuvre sonore du CHUM dans une chronique de Sylvain Aubé précédemment. Mm-hmm.
Donc, si on en vient au cœur du sujet, quels sont les objectifs de la politique?
Il y a 3 objectifs à la politique: la diffusion des œuvres, la démocratisation de l'art et la diversification du revenu des artistes.
Uh-huh. Il semble qu'il y ait de plus en plus de projets, de commandes ces dernières années.
En fait, ça suit le rythme des constructions gouvernementales. Ça a l'air d'être une évidence, mais si on donne le nombre d'œuvres réalisées entre 1961 et 2007, on va le constater encore mieux. Donc, il y a eu 2600 œuvres et depuis, il y a un tiers des œuvres qui ont été réalisées. Donc, seulement depuis 12 ans. Entre 61 et 81, il y a moins de 100 œuvres qui avaient été commandées pour un montant d'environ 1,5 million. Les commandes, à l'époque, n'étaient pas systématiques.
Ce qui a propulsé les concours d'art public ces dernières années, ça a été certainement la création des nouveaux centres hospitaliers dont on reparlera. Mais vous m'avez dit tout à l'heure que jusqu'en 81, la politique a été régie par des arrêtés en conseil, par la suite par un décret. Qu'est-ce que c'est la conséquence de ce changement?
En fait, le décret est plus incitatif qu'un arrêté, mais un décret, c'est moins puissant qu'une loi. Un décret est adopté par le Conseil des ministres. Ça le rend beaucoup plus permanent qu'un simple programme gouvernemental qui peut être changé au fur et à mesure de l'évolution d'un gouvernement. Mais par contre, un décret ne prévoit pas de mesures coercitives comme une loi. Donc, ça en rend l'application quelquefois moins systématique.
Oui, ben c'est des changements intéressants qui se sont passés dans les années 80, justement, pour l'art public. Est-ce que les artistes eux-mêmes ont fait partie de ces revendications-là? Comment ces changements-là ont été enclenchés?
Oui, à l'époque, il y avait pas mal de critiques, et notamment par le Conseil de la sculpture du Québec, qui a publié un article dans la revue Vie des arts en 79. Alors, à l'époque, on demandait d'étendre le 1 % à tous les ministères constructeurs, aux sociétés d'État et à tous les organismes subventionnés publics ou semi-publics. On y demande aussi que les sculpteurs soient plus présents, donc qu'ils fassent partie des études préliminaires des projets d'architecture et que aussi les contrats devraient inclure l'entretien des œuvres par l'organisme et non pas par l'artiste. Mmh. Et le respect du droit d'auteur aussi.
Ah, vous m'avez parlé aussi d'un dossier qui était paru dans les cahiers des arts visuels au Québec.
Oui, à ce moment-là, c'était plus le rôle prédominant de l'architecte qui, à l'époque, avait vraiment beaucoup d'importance. Il avait le dernier mot pour choisir les artistes et, en plus, il prélevait ses honoraires à même le calcul du 1 % de l'œuvre.
Les choses ont quand même bien changé depuis et c'est à ce moment-là qu'apparaît le terme « intégration » dans l'intitulé.
Oui. Et c'est aussi à ce moment-là que le secrétariat de l'intégration des arts à l'architecture est créé et qu'il est intégré au ministère des Affaires culturelles. Donc, les arrêtés en conseil sont remplacés par le décret qui fait partie de la loi du ministère des Affaires culturelles. À partir de 81, donc, les ministères constructeurs sont assujettis. La réglementation est diffusée. Elle est appliquée aussi régionalement et les employés deviennent de plus en plus professionnels. Le fameux embellissement est remplacé par la volonté, et je cite, « d'associer un créateur avec l'architecte en vue d'une intégration harmonieuse à l'édifice ou à l'environnement ». Le décret a été remplacé le premier décret a été fait en 81, pardon, et il a été remplacé par un en 96.
Et donc, à l'heure actuelle, comment on choisit les artistes?
Le choix se fait à partir d'un fichier qui est divisé selon les régions administratives du Québec et aussi en deux grandes catégories, 2D et 3D, bidimensionnel, tridimensionnel. Le budget est déterminé par une méthode de calcul complexe. Vous ne voulez pas que je vous en parle plus. Et ça varie donc de 1,35% à 1,75% du montant de la construction.
Ah, donc un peu plus que 1% en fait.
Oui.
C'est des bonnes nouvelles.
Et quelle est la composition d'un comité de sélection?
Dépendant du budget de construction, le comité est composé de 4 ou 6 personnes. La moitié des membres vient du milieu où s'implante l'œuvre et l'autre moitié du milieu de l'art.
Donc, beaucoup d'artistes présentent des projets très intéressants, travaillent très fort à concevoir, à produire des maquettes. Les concours sont devenus très importants dans une carrière. Pour les artistes gagnants qui peuvent faire face à certaines difficultés, est-ce que vous pourriez nous parler de certains problèmes auxquels ils pourraient être confrontés?
Oui, d'abord, il y a le décret qui date de 1996. En principe, un décret devrait être renouvelé aux 5 ans. Donc, vous calculez avec moi que
ça date
quelquefois pas mal plus que 5 ans. Et donc, l'autre problème, c'est que les chiffres date de 96. Donc, c'est devenu complètement disproportionné par rapport à la réalité d'aujourd'hui. La deuxième chose qui serait importante de mentionner, ce sont les contraintes qui sont imposées aux artistes. Il y a des exigences qui sont vraiment très importantes concernant la pérennité des œuvres. En fait, on leur demande presque d'être plus pérennes que l'édifice, ce qui est quand même paradoxal.
Ironique un peu.
Oui, tout à fait. Et aussi le manque d'entretien, qui correspond malheureusement au manque d'entretien des édifices gouvernementaux. Il y a aussi les exigences concernant la sécurité des œuvres qui sont vraiment démesurées. Je disais souvent dans les comités que, vous savez, un escalier, ça peut aussi être dangereux.
Mm-hmm.
Et qu'en plus, il n'y a aucun extra. Quand on pense au fameux système qui a cours dans la construction, les artistes n'ont jamais droit à aucun dépassement de coût, même s'il y a des retards, même s'il y a une augmentation des matériaux.
Mm-hmm. Merci beaucoup, Pascal Baudet. Ça donne un très bel historique, mais également un aperçu de la réalité de cet 1% de l'art public qu'on a à Montréal.
On va reparler plus tard des problématiques dont nous parlait Pascal. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation, d'être venu pour nous parler de ce système. Et le prochain sujet de chronique, qui va être le lundi 10 juin, ça va être le site spécifique ou la notion d'in situ. Et on aura comme invité une historienne de l'art, Véronique Rodriguez.
Merci beaucoup, Elisabeth. Et à venir aujourd'hui à Atelier, la chronique de Pascal Tremblay et le segment création avec Eliana Hernandez.
Pour les vrais goûts de l'Italie, amène ta famille, amène des amis.
Puis si tu gagnes le gros lot du Lotomax qui peut atteindre jusqu'à 70 millions, ben tu pourras les amener pour vrai en Italie, ta famille puis tes amis.
Socialement indépendante.
Bon retour sur les ondes d'Atelier au CIBL, votre magazine hebdomadaire des arts actuels à Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard et vous pouvez réécouter toutes nos émissions ou même nous écrire au radioatelier.ca. Aujourd'hui, on a une chronique de Pascal Tremblay. Bonjour Pascal.
Bonjour Benjamin.
Alors, tu nous parles d'un projet de médiation sur les arts vivants. Tu te la joues, comme on pourrait dire. Ça a lieu dans le cadre du OFTA. C'est un projet pour lequel on est tous les deux impliqués.
Oui, tout à fait. On est tous les deux impliqués en tant que médiateurs et médiatrices. Puis d'ailleurs, si j'ai accepté de m'impliquer dans ce projet-là, c'est que je voulais le vivre de l'intérieur pour discuter surtout de la réception des participants et des participantes, parce que j'aurais pu me commettre moi-même et vivre l'expérience en tant que participante, puis vous relater ensuite mes impressions. Mais comme je fais partie du cercle des initiés, que je mets ici entre guillemets, si je peux dire, je trouvais plus stimulant d'aborder cette proposition-là d'un œil comme étant un œil extérieur, en fait. Quoiqu'au final, on finit un petit peu par, en tant que médiateur, médiatrice, par prendre un peu action quand même dans la partie quand ça se déroule. Donc, d'abord, on va expliquer qu'est-ce que cela joue,
parce que c'est tout un petit concept.
Oui, tout à fait. Donc, à la base, le titre original de cette proposition-là, c'est « Playing Up ». C'est un jeu qui invite les adultes et les enfants à refaire des performances qui ont marqué l'histoire de l'art. Et cette proposition-là, ludique, c'est l'œuvre de l'artiste Sybil Peters, en collaboration avec le Fundus Theatre, Theatre of Research, le Live Art Development Agency, et le Tate Early Years and Family Program. Donc, la première mouture de Playing Up a eu lieu pendant 3 jours en avril 2016 à la Tate Modern. Donc, c'est près de 1200 personnes qui ont participé à l'expérience à ce moment-là. Et comme l'explique l'autrice et commissaire Mary Patterson dans un texte qui analyse le projet, on pourrait le définir comme étant à la fois un jeu, à la fois une œuvre, à la fois une méthode pédagogique qui permet d'aborder les arts vivants. En fait, Playing Up favorise les rencontres puis sert aussi d'outil pour déjouer les conventions. ce qui est quand même un précepte qui est souvent intrinsèque là, aux arts vivants.
Oui, ça traverse plusieurs disciplines, à la fois dans l'action de jouer. Mm-hmm. Hein? Est-ce qu'on est des artistes? Est-ce que c'est une école? Mais également dans les œuvres qui sont présentées.
Oui, tout à fait. Puis le OFTEA et le LADA étant des entités qui se côtoient quand même depuis quelques années de par leur nature, l'idée d'en faire une version dans le contexte de l'événement du OFTEA était quand même sur la table depuis quelques temps. Et pour l'édition 2019, bien, cette volonté s'est concrétisée. Donc, le OFTEA a invité le collectif Projet Ibris à chapeauter l'édition montréalaise qui est baptisée « Seul à jouer ». Donc, Projet Ibris, c'est d'ailleurs le collectif là, qui a fait l'objet d'une de mes chroniques à l'émission numéro 15. Donc, pour les curieux qui voudraient entendre Philippe Dumaine parler un peu plus en détail de ce qu'est Projet Ibris, c'est l'émission du 24 septembre qui se trouve à la page 3 sur le site radioatelier.ca.
On va mettre également un lien dans les commentaires de cette émission.
Oui, exactement, pour simplifier tout ça. Et donc, brièvement, le Projet Ibris, c'est une compagnie de création interdisciplinaire queer et féministe qui est basée à Montréal, qui pose un regard critique sur les rapports de pouvoir qui sous-tendent nos communautés en explorant à travers ses projets les enjeux de la marginalisation des individus, des savoirs, des histoires et des sociétés. Donc, elle infile des réseaux variés comme les théâtres, les galeries d'art, les scènes alternatives et tout ça dans le but de pousser leur travail vers des formes toujours plus hybrides. Et cela joué en est un parfait exemple. Donc, en fait, vu les préoccupations puis la nature même du collectif, le jumelage allait un peu de soi là, pour l'organisation du OFTEA. Ouais. Donc, dans cette version montréalaise qui a cours jusqu'à dimanche prochain, cela joué devient une œuvre participative, donc non pas dans un lieu institutionnel là, comme la Tate Modern, mais plus dans les espaces publics. Donc, il y a deux espaces qui accueillent l'installation qui a été pensée pour donner forme quand même à cet événement-là, qui est une structure multifonctionnelle, quand même assez bien élaborée, réalisée par Kermesse Montréal. Donc, il y a une installation ici, juste à côté des studios de CIBL, sur la place de la Paix, en face du Monument national, et une autre qui se trouve sur Mont-Royal, au coin de Mantana, qui est la nouvelle place baptisée en l'honneur du chanteur Ferland.
Jean-Pierre Ferland,
voilà. La place des fleurs de Macadam. Et donc, maintenant, comment on se la joue? C'est simple. À l'origine, le jeu comptait 36 cartes à jouer sur lesquelles on retrouve des magnifiques dessins qui représentent des performances réalisées par des artistes internationaux. Ça peut aller de Marcel Duchamp aux Guerrilla Girls.
Mm-hmm, des performances connues ou même moins connues.
Oui, exactement. Donc, c'est assez pluriel. Mm-hmm. Ça couvre un assez bon éventail. Et pour la version de la Tate Modern, c'était des cartes qui étaient format géant qui étaient utilisées. Mais pour la version actuelle, on a opté plus pour des cartes d'un format plus fonctionnel qui sont placées dans un présentoir. Au centre, il y a un costumier avec des bacs contenant tout le matériel de base qui est nécessaire à la réalisation d'une relecture que les participants et participantes peuvent faire à leur manière des performances qu'ils auront choisies. Mm-hmm. Et à ce jeu originel là, de 36 cartes, ont été ajoutées 12 œuvres d'artistes locaux qui sont issus de la performance, là, comme exemple des artistes comme Toufik, qu'on peut qualifier d'artiste quand même montréalais puisqu'il est installé ici, mm-hmm. même s'il est originaire de Paris. Mais on a aussi des artistes comme...
Il y a Jacob Wren, il y a
Oui, exactement, PMR. Oui, tout à fait. Et mon Dieu, j'oubliais Eckenberg... Rachel Eckenberg et Devorah Newmark.
Newmark, oui.
Oui, exactement. Des performances quand même assez intéressantes, justement, à découvrir. Et aussi, on peut former des équipes. Donc, pendant 10 jours, là, il va y avoir ces ateliers participatifs là, dans l'espace public. Et on forme des équipes variant entre 2 à 7 participants-participantes. On roule un dé qui nous donne la couleur de la section à choisir. Et ensuite, on peut même prendre le temps de sélectionner la carte ou la performance qu'on veut réincarner. Oui, c'est ça, réinterpréter. Ça dure à peu près une heure environ, les parties. Mais Bon, si jamais les gens disposent un peu moins de temps, comme une demi-heure, 45 ou 15 minutes...
On fait des exceptions parfois.
Exactement. On peut quand même s'adapter. Mais c'est plaisant de prendre l'heure. Des fois, il y a même des participants qui se la jouent pendant un peu plus d'une heure. Donc, selon la disponibilité des médiateurs, médiatrices ou l'achalandage, tout ça peut être aussi très variable. Donc, je vous donne un exemple d'une carte que je vais vous lire à l'instant. Donc, je sélectionne notre cher Marcel Duchamp, hein, qui a été photographié par Man Ray, donc pour ce personnage de Eros Celavi de 1921. Donc, sur la carte, on peut lire « Qu'est-ce qui fait de nous la personne que nous sommes? En quoi serions-nous autres si nous vivions dans un endroit différent, si notre corps était différent, si notre genre était différent? » Est-il possible de changer d'identité? L'artiste Marcel Duchamp a vécu il y a un siècle, mais plusieurs de ses idées sont encore importantes pour les arts vivants aujourd'hui. En collaboration avec le photographe Man Ray, Duchamp s'est inventé une autre identité, un alter ego, l'artiste Eros Celavi. Plus tard, l'écrivain Robert Desnos, a suggéré que Eros Celavi était peut-être en fait une aristocrate oubliée, voire même la légitime reine de France. Instruction, habillez-vous comme si vous étiez une personne dont l'identité de genre diffère de la vôtre, trouvez-lui un prénom, prenez une photo, imaginez son histoire. Alors, c'est ce qu'on fait en groupe. Donc, bien sûr, il y a le médiateur ou la médiatrice qui joue un peu le rôle de guide, qui est présente avec le groupe pour un peu expliquer en quoi il en retourne, donner des suggestions ou encore juste essayer de, comme un peu...
Mettre au défi les participants et faire un retour sur leur expérience.
Oui, exactement. Donc, il y a aussi au départ un petit moment de présentation. On parle un peu de nos états d'esprit à l'entrée dans la performance. Puis ensuite, on parle aussi du fait de l'importance de respecter les limites de chacun à travers cette activité.
Mm-hmm. Et comment ça se passe, toi, de ton côté, pour les équipes et cette médiation-là?
Mais ça a très bien été, puis moi j'ai été quand même un peu marquée par mon expérience avec trois adolescentes qui ont décidé de faire la performance de Aaron Williamson qui consiste à détourner la circulation ou à prendre vraiment l'espace public, à utiliser une espèce de banderole où c'est écrit « Attention ». Et les filles se sont installées juste devant le TNM à la sortie de la pièce de théâtre le soir où... je me rappelle plus tout à fait le titre, là, mais « La nuit où Gautreau s'est réveillé », qui est excellente d'ailleurs, au TNM. Et on voyait les gens passer à travers les installations
les
de béton.
De sécurité, oui.
Et là, les filles ont installé les barrières de sécurité, ce qui a fait qu'automatiquement, la circulation a été détournée. Mais les filles avaient un propos un peu plus environnementaliste. Donc, elles voulaient que les gens... Elle a permission de passer seulement s'ils laissaient leurs objets de plastique. Mais elles étaient trop timides pour imposer leur requête, leur demande. Donc, elles n'ont pas osé prendre parole dans l'espace public alors qu'elles m'avaient dit « Est-ce qu'on peut revendiquer quelque chose? » Donc, elles ont été confrontées avec cette notion-là de prise de parole, de prendre action dans l'espace public et à quel point ça peut demander justement de l'audace ou encore une certaine...
Une forme de courage.
Oui, exactement, exactement. Une forme de courage, de prise de risque, en fait. Et ça nous a permis d'ouvrir sur la question de la préparation de l'artiste en contexte de performance.
Donc, si on veut se la jouer, Pascal, les dates, les informations importantes?
Oui, les informations importantes, vous pouvez les trouver sur le oftea.com pour retrouver la programmation. Sur le Facebook aussi, il y a une page Facebook exprès pour l'événement « Se la jouer ». Donc, ça a cours jusqu'au 2 juin. Vous avez toutes les heures aussi. C'est du lundi au vendredi de 5h à 9h30 le soir et la fin de semaine aussi en après-midi jusqu'à 9h30. Ça varie selon la place de la paix ou la place de Macadam. Et on va vous mettre les liens aussi sur la page de Atelier, bien évidemment.
Merci beaucoup, Pascal Tremblay.
Ça fait plaisir. Thank you.
C'est maintenant l'heure du segment création, mais avant, je voulais vous dire qu'on écoutait une pièce « Accident harmonique » composée par Bernard Parmigiani. On la trouve sur le disque de Natura Sonorum qu'il décrit comme enclenchant une nouvelle période dans sa création, et je le cite, « succédant à la recherche d'une problématique reliant le matériau sonore à la forme de son évolution, c'est à l'écriture des sons que je m'attache. Ces sons dont l'encre, pourrait-on dire, est extraite de toute matière que je tente de conjuguer, de confronter, afin d'en observer la nature. » Peut-être une citation qui aura des échos particuliers avec l'artiste qu'on accueille aujourd'hui, Eliana Hernandez. Bonjour, Eliana.
Allô, bonjour.
Et donc, oui, en lien à sa création, l'artiste occupe la vitrine de CIBL. Vous l'avez peut-être vu sur nos réseaux sociaux. Alors, on occupe la vitrine depuis le début de l'émission et on a Michel Lacombe. Bonjour, Michel.
Allô.
Michel, pour en parler aujourd'hui en studio.
Ben oui, pour commencer, Eliana Hernandez, c'est une travailleuse au Centre des arts actuel Skoll. Alors, vous avez peut-être croisé l'artiste au sein de son travail en tant que travailleuse culturelle. Mais c'est aussi une artiste et en fait eu son bac en beaux-arts de l'Université de Concordia en 2014. Au sein de sa pratique artistique, elle travaille avec la performance, la photographie, la vidéo et le collage pour créer des images surréalistes qui interrogent notre relation avec l'environnement et le concept même de l'humanité ou d'espèce humaine. Souvent, en fait, Eliana va utiliser les textiles et le papier comme des extensions de son corps. Et cet axe de recherche se poursuit actuellement dans le cadre d'une résidence d'exploration à l'Incrin, qu'on a discuté un petit peu, qui est une plateforme de diffusion expérimentale conçue et commissariée par Caroline Boileau et Stéphane Giloux pour la vitrine de l'imprimerie Centre d'artistes dans le quartier d'Hochelaga. Intitulé « Les ponts », le projet de recherche d'Eliana a donné naissance à un personnage fictif qui utilise l'Incrin comme un point de communication entre l'imprimerie et la rue Sainte-Catherine-Est. Pour le segment création aujourd'hui, l'installation évolutive déborde de son emplacement dans Hochelaga pour occuper de manière ponctuelle la vitrine et les ondes de CIBL. Sans vous en dire plus, je laisse la place à Eliana qui est en fait son personnage, qui nous présente « Toi, lance tes souhaits ». Thank you.
Nous venons d'entendre « Toi, lance des souhaits », une œuvre performative de l'artiste Ileana Hernandez et ses nombreux acolytes et acolytes. Bonjour tout le monde! On est combien là en studio là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est avec toute l'équipe là, facilement une dizaine. Waouh, c'est fantastique. Michel Lacombe nous a expliqué au début de la performance que ça s'inscrit dans le cadre de ta résidence à l'écrin. Donc pour commencer, Ileana, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail le projet que tu développes dans la vitrine de l'imprimerie à Hochelaga?
Oui, c'est un projet de 3 mois. Où j'ai fait une installation à l'intérieur de l'écran, la vitrine, mm-hmm. puis à l'extérieur aussi. Et c'est pour créer des ponts entre l'écran puis la rue Hochelaga. Parce que je pense, quand j'ai visité pour la première fois l'imprimerie, je pensais que l'écran était un peu comme un limbo entre la rue puis les centres d'artistes. Puis je voulais... faire quelque chose pour mm-hmm. connecter avec oui. Tout le monde, mais pas tout le monde, mais comme la rue, puis
d'être en dialogue ouais. justement avec la rue oui. Sainte-Catherine sur laquelle le centre est situé. Puis c'est un peu ce que tu as fait avec ouais. la vitrine maintenant oui. de CIBL qui est remplie de tape de couleurs, oui. différentes choses.
Oui, mais oui, ben, Ileana, j'ai eu la chance de voir l'installation évolutive à l'écran. Puis je sais en fait qu'en arrière de cette belle création collective qu'on vient de créer, il y a une trame sonore que tu as travaillée. Est-ce que mm-hmm. tu pourrais nous parler un petit peu plus de cette œuvre sonore-là? Puis c'est quoi le lien? Comment tu as construit ça à base de tes recherches dans le cadre de la résidence un petit peu?
Oui, depuis, ben, comme le lancement de la résidence, j'ai utilisé quand même des effets sonores pour faire l'ouverture, le lancement. Puis, c'était comme... j'ai créé le personnage de toi là-dedans. Puis, comme je suis en train de le construire, je veux pas qu'il y ait comme ma voix, vraiment. Fait que l'effet de modifier ma voix puis d'ajouter des sons, c'est comme faire... construire l'environnement pour ce personnage puis construire aussi comme son identité. Mais pas son identité, mais juste sa création. Ouais. Mm-hmm.
Puis dans ce sens-là, est-ce que le personnage, pour toi, souvent, quand les artistes en performance travaillent le personnage, c'est une création, une extension du soi. Puis ce que je trouve intéressant dans ta proposition, c'est que le personnage est en fait un peu créé de manière collective parce mm-hmm. que c'est vraiment à base de tes interactions que... ce personnage-là se développe. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir le visuel, est-ce que tu peux nous décrire un peu matériellement, ouais. C'est quoi l'univers de ce personnage-là? Je trouve que tu as quand même une matérialité fantastique au cœur de ton travail.
Oui, merci. J'aime beaucoup les papyrologrammes. Ça fait partie de ma pratique beaucoup. Puis à l'intérieur, c'est tout des papyrologrammes qu'avec le soleil, ça change à chaque fois que le soleil change. Puis les personnages, elle est là tout le temps. Mais c'est pas moi, c'est juste... mais le personnage est là. Et à l'extérieur, j'écris un gros... avec des mots que je suis en train de faire. « Toi ». Et j'ai fait comme...
Comme le mot « toi ».
Toi, ouais. Le mot « toi », ouais.
C'est également le nom du personnage.
Oui. Et je décolle les papyrologrammes, puis je les colle à l'extérieur avec du Sprite.
Ça, c'est... la liqueur.
Ou la liqueur Sprite, ouais. Ouais, et ça, c'est une technique des rotulos. C'est des affiches faites à la main au Mexique, mais au lieu d'utiliser les papyrologrammes, ils utilisent des papiers pour emballer les chocolats.
Ah ouais, OK.
Ouais, mais moi, j'utilise l'hologramme. Puis c'est quand même... C'est incroyable comment des matériaux qui sont pas nobles peuvent faire quand même des belles visuels. Puis aussi, juste comme... J'ai jamais pensé qu'utiliser du Sprite, ça pourrait marcher pour mes œuvres.
Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est des objets nobles, mais c'est quand même des objets qui s'ouvrent vers une espèce d'imaginaire un peu fantastique, mm-hmm. surréel. C'est mm-hmm. des matériaux... un peu pauvre, on dirait, mm-hmm. mais très synthétique. Puis je trouve oui. que c'est intéressant de créer une collectivité alentour de ça. Souvent, les œuvres relationnelles, performatives, mm-hmm. Travaillent plus la matière de la terre, des matières organiques, mm-hmm. un retour un peu à quelque chose qu'on sent plus naturel. Mm-hmm. Et ce que je trouve, en fait, intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui te transporte. Est-ce que tu peux parler, est-ce qu'il y a une influence comme de l'univers science-fiction oui. ou futuriste au sein de ton travail? Ouais. Tu peux en parler un petit peu?
Oui, oui, je suis très influencée par la science-fiction parce que même dans la réalité, je pense que c'est un peu la science-fiction des fois quand il y a des situations un peu absurdes que je ne comprends pas. Fait que ça, utiliser les plastiques, on est quand même très, ben, tout le temps enrobé de plastique, ça, c'est un peu un rappel de tout ça dans mon univers. Puis ouais, c'est ça.
Ben, merci beaucoup, Elena Fernandez. La résidence ouais. artiste est jusqu'à quand?
C'est jusqu'au 31 juin.
Eh, fantastique.
Ouais. Puis il va y avoir une évolution encore.
Puis est-ce qu'il y a un événement style finissage ou quelque chose ou à déterminer?
Le 18 juin.
Le 18 juin. Annoncé en direct à Atelier.
Le 18 juin, ouais.
Eh, fantastique. Bon, yeah. On invite tout le monde, c'est vraiment à voir, et puis à voir également sur nos réseaux sociaux la magnifique murale qui a été faite dans notre vitrine.
Yes.
Alors, c'est ce qui va mettre fin à notre 44e émission d'Atelier, chers auditeurs et auditrices. Merci d'avoir été des nôtres. On se revoit lundi prochain à 18h. Si vous voulez en apprendre davantage sur les sujets dont nous avons traité aujourd'hui, bien, je vous invite à visiter notre site internet au radioatelier.ca. Nous sommes également sur presque toutes les plateformes de balado-diffusion, ainsi que sur Facebook et Instagram. J'aimerais remercier Manon Giry à la mise en onde, Pascal Tremblay et Michel Lacombe à la coordination, Geisha Armanderis à la mise en onde et Véronique Marangère aux communications, mais également à la sélection musicale aujourd'hui. On a également toute une merveilleuse équipe de chroniqueurs et de chroniqueuses que je salue. Je m'appelle Benjamin J. Allard et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle émission d'Atelier.
Vous avez confié un enfant en adoption? Sachez que les règles concernant la confidentialité de votre identité ont changé. À partir du 16 juin 2019, un enfant adopté pourra connaître l'identité de ses parents biologiques s'il en fait la demande. Si vous désirez garder votre identité confidentielle, vous devez le signaler avant le 16 juin 2019. Pour obtenir un formulaire, contactez le 1-888-441-7889 ou consultez le québec.ca/info-adoption. Un message du gouvernement du Québec.
Purpose we perfected, they perverted and inverted it. Now the rap we left with is the sex, drugs, and murder. The band of broken puppets, a punk rock alternative. Flock of middle finger birds to serve it. What you heard it is. Big pen, big poem, living there where Biggie did. Giant with my feet wet, I'm strumming on the Brooklyn Bridge. Word